L'heure H. Jean-Louis Lahaye.
Nous sommes le 12 octobre 1793, il est 10h52. Dans quelques instants, la Convention nationale, souveraine législative d'une France à feu et à sang, va rayer de la carte la ville de Lyon, la capitale des Gaules. Et elle ne va pas s'arrêter là. Bientôt, elle y enverra l'un de ses lieutenants les plus rusés, l'un des moins empathiques aussi. Cet homme, encore à l'aube de sa carrière politique, va traverser les régimes les uns après les autres, avec une détermination qui n'a d'égal que son manque de loyauté politique. Son nom ? Joseph Fouché, le mitrailleur de Lyon. 10h52, c'est l'heure H de mon histoire. D'un pas énergique, Danton se presse dans les dédales du jardin des Tuileries à Paris. Son embonpoint lui coupe le souffle et son endurance pénalise la vitesse à laquelle il avance. Pourtant, il doit se dépêcher. Bientôt sera décidé le sort d'une des plus importantes villes de France, Lyon. Il blâme autant le pouvoir de feu le roi Louis XVI que celui des révolutionnaires face à cette situation ubuesque. Le voilà enfin arrivé devant la porte de la salle du manège, là où les lois de tout le pays sont votées depuis déjà presque 3 ans. La République en place y a condamné le roi de France et nombre de procès y entachent un régime qui se veut le plus juste possible. Danton observe ses amis montagnards, ceux qui sont du même bord politique que lui. Il aperçoit Desmoulins et Robespierre et Saint-Just un peu plus loin, dans le camp des Girondins. D'un signe de main, il les salue. Ceux qu'il considère comme ses alliés, bientôt, réclameront et obtiendront sa tête. Mais ça il l'ignore encore. Ce jour d'automne 1793, les feuilles mortes envahissent la cour des Tuileries comme un présage annonçant l'hiver et la mort de la reine aussi. Dans 4 jours, sa tête roulera sur les pavés de la place de la Révolution. « Les temps changent », se dit-il, posant les mains sur son ventre arrondi. Les débats sont longs, houleux. Tous sont d'accord. Il faut punir Lyon de la plus sévère des manières. Danton n'est tout de même pas bien à l'aise. La ville se trouve dans ce marasme à la suite, là aussi, d'une opposition locale entre les Girondins et les Montagnards, deux des principaux courants politiques de l'époque. Sur les bancs de la Convention, l'unité est encore de mise, mais les premières fissures des oppositions commencent tout doucement à se faire sentir. L'ancien maire de la ville, plutôt centriste, a été chassé par les Montagnards qui dominent aussi au niveau central depuis le mois de juin. Le nouvel édile, un certain Chalier, n'a clairement pas été à la hauteur. Il rappelle à Danton ce diable de Marat qui fut assassiné dans sa baignoire il y a quelques mois. Marat, déjà réputé pour être un sanglant révolutionnaire, était un enfant de cœur à côté de ce nouveau maire. C'est un peu comme éteindre le feu avec un combustible. On a déjà vu de meilleures idées. Sitôt nommé en mars, il crée un tribunal révolutionnaire, une taxation excessive des plus riches et organise une répression des prêtres réfractaires et des aristocrates. Cet homme est plus rouge que rouge. Danton jette un œil sur les bancs alentours et retient sa respiration au contact de l'eau de Cologne excessivement déversée sur le cou de son voisin. Bien entendu, la pression instaurée par Chalier à Lyon n'a pas tardé à lui péter à la figure. Dès le mois de mai, certains ont monté une guillotine, place Bellecour, et le Christ de la Révolution, comme on l'appelait, est parti pour rejoindre son créateur, la tête sous le bras. À Paris, on crie à l'insurrection, comme vous pouvez l'imaginer. Danton hurle d'ailleurs un peu moins fort que les autres, car il sait bien que les montagnards ont sans doute poussé le bouchon un peu loin sur place. Mais peu importe les erreurs. Il faut faire un exemple et reprendre la ville. En effet, elle est vue de Paris comme une petite Vendée blanche, c'est-à-dire royaliste, à l'heure où les Vendéens sont les victimes d'une répression féroce pour leur appartenance politique. En effet, il ne fait pas bon d'être partisan de la royauté à l'aube de l'hiver 93. En réalité, les fondements du soulèvement à Lyon n'ont rien à voir avec un supposé soutien à la mémoire de Louis XVI ou à celle de son fils, le tout jeune Louis XVII, qui se meurt de la tuberculose dans un cachot comme le dernier des criminels. Cependant, sa défense a été assurée par un partisan du roi. Cela efface tout le reste pour les révolutionnaires qui assiègent la ville dès la fin de l'été. Après de longs et âpres combats, il a été décidé d'y envoyer un homme qui fait frémir Danton lui-même, Fouché. Pour l'instant, l'homme est dans la Nièvre. Il n'a pas encore agi. Il attend les ordres pour les appliquer comme il se doit. Danton se remémore sa première rencontre avec cet étrange soldat des palais de la République. Voilà un homme qui trouvera peu d'amour auprès de ses contemporains et certainement pas de justice auprès de la postérité, avait tout de suite pensé le chef de file des Montagnards. Et vous le verrez, il avait raison. Physiquement, Joseph Fouché n'est pas un canon de beauté de l'époque, loin de là. Ses joues sont creuses, sa taille modeste, ses yeux noirs comme le jais sont enfoncés dans leurs orbites et une calvitie naissante lui donne un front un peu proéminent. Sur ses joues se dessinent, comme c'est la mode à l'époque, des roues flaquettes qui viennent encadrer un menton qui semble n'avoir jamais trouvé sa place. Le physique est peut-être ingrat, mais Danton a tout de suite vu la menace qui se cache derrière cette enveloppe charnelle inégale. Loin de Paris, c'est là sa place. Mais Danton, la bête politique, recentre son esprit et se concentre de nouveau sur le destin de Lyon. Alors qu'elle a déjà été détruite sous le règne de l'empereur romain Septime Sévère, tout est dans son nom. La capitale des Gaules et sa magnifique place Bellecour se trouvent en bien mauvaise posture. Paris décide ce jour de son sort. La fin des débats amène à la rédaction d'un décret qui stipule tout bonnement sa disparition, depuis ses immeubles jusqu'à son nom. Dorénavant, on l'appellera Villafranchi. Il est décidé que tous ses habitants seront désarmés, que tous les bâtiments historiques seront mis à sac et brûlés et qu'enfin, le nom de Lyon sera effacé du tableau des villes de la République. Rien que ça. Une colonne devra être érigée en lieu et place de son cœur historique et ses mots devront y être inscrits, résonnant dans les cœurs de tous les opposants au régime. Lyon fit la guerre à la liberté. Lyon n'est plus. Recevant ses instructions quelques jours plus tard, Joseph Fouché, lui, comprend tout de suite l'importance de cette mission pour son ascension personnelle. Il n'a pas le choix, la réussite ou la mort. La répression de la ville va être violente, sans pitié, et frappée de son sceau. Son objectif est clair, que l'histoire, un jour, se rappelle qu'il a été le mitrailleur de Lyon. Nous sommes le 29 octobre 1793. Depuis son départ de la Nièvre, Joseph Fouché n'a cessé d'avoir mal au lombaire, tant les routes des tout nouveaux départements sont chaotiques. Ce n'est pas une surprise, avait pensé l'homme presque ridicule dans sa tenue civile trop ample pour ses 59 kilos. On peut dire que le destin qui l'attend à Lyon est des plus particuliers et qu'il n'y a pas été préparé. La Révolution en a été le détonateur. Fils de marin, petit-fils de charpentier de marine, le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il s'évertue à casser les codes. Son père l'a pourtant poussé à devenir capitaine, comme lui. Mais c'est la voie de l'enseignement qu'il a privilégiée. Un joli parcours le conduit à être, avant 1789, enseignant à l'oratoire de Niort, en qualité de professeur de sciences. Ce qui le fait vibrer, lui, c'est la chimie. Il parcourt ainsi les villes du nord-ouest de la France, de Saumur à Arras. C'est dans cette dernière qu'il rencontre celui qui attise le feu qui brûle en lui depuis 4 ans, Robespierre. Lorsque ce dernier embrasse la cause révolutionnaire avec ardeur, il décide de le suivre. Depuis l'an dernier, il est député à la convention de la circonscription de Nantes. Il sourit. Il est fier, lui le fils de marin, de pouvoir prendre des décisions et d'exercer son influence. Chez certains, le pouvoir, ça grise. Lui, c'était l'inverse. Chaque acte pris, chaque chose imposée semblait le rendre plus grand encore. Voilà maintenant qu'il envisage les stratégies, prévoit les coups d'avance. Le professeur de chimie bientôt sera craint de milliers et de milliers de personnes dans le Rhône. Depuis peu franc-maçon, cette appartenance lui a donné de nombreuses opportunités politiques et sociétales qu'il n'a pas hésité à saisir. Lorsqu'il se penche par la fenêtre entrouverte à l'extérieur de la voiture, il remarque la brume tombante de la fin de matinée qui enveloppe l'escorte qui l'accompagne. Des cavaliers de la République, probablement des hussards, il n'avait pas bien vu, le protègent d'une attaque des royalistes. C'était faire preuve de zèle dans cette région, il le sait bien, mais les ordres sont les ordres. Et il compte bien une nouvelle fois faire preuve d'impartialité. Depuis que son ancien nom a été radié des registres, la ville affranchie a connu de nombreux rebondissements politiques. C'est d'ailleurs certainement aussi pour cette raison qu'on l'envoie sur place, lui. Dans la Nièvre et l'Allier, sa mission était de déchristianiser des régions encore trop favorables à l'Église. Le culte avoué maintenant, c'était le républicain. C'est lors de cette petite année passée dans cette région du pays que le pouvoir central a pu constater sa détermination et sa force de caractère. Ses excès aussi. Il n'a pas hésité à détruire des églises, à faire briser des croix, mener des autodafés bibliques et de vêtements sacerdotaux. En somme, l'homme issu pourtant d'une famille de la mer très superstitieuse n'a pas hésité à passer pour le représentant de l'enfer et de ses apôtres. Ces écarts ne lui ont pas coûté cher, au contraire. Il en a obtenu une promotion, celle de réprimer les Lyonnais jugés rebelles. Comme d'habitude, il voit dans le fait de faire du zèle une opportunité personnelle pour s'ouvrir des portes à Paris. Déjà les pions de son jeu d'échecs sont en place, et il vise le mat en quelques coups. La première étape du plan est à une nuit de cheval environ. Avant de partir, il a été avisé de la situation sur place. Le général qui a assiégé la ville et qui l'a reprise a été remplacé à la tête de la ville par des révolutionnaires jugés plus prompts à obéir. Un duo est chargé de pacifier la situation, de légiférer en ce sens au niveau local et d'appliquer les directives des députés. Mais la Convention a estimé qu'il leur manquait pour ça un homme de terrain, ce genre particulier qui ne craint jamais de se salir les mains et qui pense le plus sincèrement du monde qu'une conscience est secondaire. Cet homme, il était tout trouvé depuis l'année dernière. C'est lui, c'est Fouché. Il a déjà réfléchi d'ailleurs à tout ce qu'il est possible de mettre en place pour gagner du temps, devenir le maître de l'efficacité et de la peur dans une cité plus que centenaire qui bientôt aura du sang coulant sur les murs de ses plus beaux immeubles. Tremble, Villafranchie, ex-Lyon. Demain, le diable sera devant ta porte. Et en effet, il ne s'est pas trompé. La répression de la métropole lyonnaise va donner à Joseph Fouché ses lettres de noblesse, sans parler du fait que la Convention va bien entendu parler encore longtemps de ses actions, l'ancrant par là même dans le paysage politique sur la durée. D'octobre 1793 à mars 1794, son visage inspire dans les rues de l'ex-ville de Lyon la peur panique que seuls peuvent provoquer les pires cauchemars. C'est là qu'il glane son surnom resté le plus célèbre, celui de Mitrailleur de Lyon. Comprenez bien, l'objectif de Fouché est alors clair, faire le plus de dégâts possible, le plus rapidement possible. La guillotine est un excellent moyen de propagation de la terreur dans la population, mais elle n'offre pas un débit d'exécution assez rapide pour l'homme au nez aquilin qui arrive place Bellecour. Il faut faire mieux. L'ancienne Lyon dispose d'une quantité de canons proportionnée à sa taille. Autant vous dire que l'arsenal est donc d'importance. Lors d'une visite du matériel disponible, Fouché, éclairé par son génie bien particulier, trouve la solution. Les habitants suspects seront foudroyés à la mitraille, directement déchargés par des tirs d'artillerie. Si vous ne connaissez pas le principe de cette arme fortement et très efficacement utilisée contre des cavaliers lancés en plein galop, en voici un bref descriptif. Dans le fût du canon est inséré un cylindre dans lequel se trouvent des balles de plomb. Le reste de la manipulation avant le tir est la même que lors d'un jet de boulet. Dégorgement du canon, bourrage du cylindre, allumage de la mèche et... boum ! Oui, mais voilà, Contrairement au boulet, qui fait des ravages, certes, la boîte à mitraille, elle, éjecte des centaines de balles petites, lancées à pleine vitesse. Vous l'imaginez aisément, dans une foule compactée et alignée sans protection, le résultat est des plus rapides, des plus efficaces. C'est la mort assurée, ou du moins, si par malheur il reste des survivants, il n'est pas difficile de les passer au fil de l'épée. Les chiffres de l'horreur donnent le tournis. En 6 mois de temps, Fouché et ses 2 comparses sont responsables de près de 1700 tués sous le poids de la mitraille. Mais le représentant de la Convention ne s'arrête pas là. On l'accuse rapidement de dilapidation et de détournement. La probité est bien souvent un régime à 2 vitesses. Prenons pour illustrer cet abus de pouvoir cet arrêté pris par les hommes en place. Les représentants du peuple envoyés à communes affranchies pour y assurer le bonheur du peuple requièrent la commission des séquestres de faire apporter chez eux 200 bouteilles du meilleur vin qu'ils pourraient trouver et en outre 500 bouteilles de vin rouge de Bordeaux première qualité pour leur table. Vous pouvez l'imaginer comme moi rapidement, Joseph Fouché est aussi détesté que craint dans la cité. C'est une des raisons qui pousse la Convention à le rappeler à la fin du mois de mars 1794. À son départ, Lyon n'est toujours pas une ruine. Sur les 600 immeubles qui devaient partir en fumée, seule une 50aine le sont de manière effective. Initialement, c'est la place Bellecour et son quartier alentour qui étaient visés, puisque c'est là que se concentre l'aristocratie lyonnaise. On démonte partiellement les façades orientales et occidentales, mais la colonne qui devait siéger au centre de la place ne voit, elle, jamais le jour. La raison de tout ce retard, elle est toute simple. La crise économique. Devant les difficultés économiques imposées par la guerre aux frontières, la ville et la France n'ont bientôt plus l'argent pour payer les démolisseurs. Fin du chantier donc, sans d'autres dégâts supplémentaires que ceux imposés par le siège en 1793. Retour de Fouché également à Paris, dans ses petits souliers à la suite des accusations de malversation portées contre lui. Il démarre une dangereuse traversée du désert alors que Robespierre et ses sbires vont bientôt lui tourner le dos. Aujourd'hui se trouve dans le vieux Lyon la crypte des Brotteaux, qui abrite certains des ossements des malheureux mitraillés de Fouché.
L'heure H. Jean-Louis Lahaye.
Aujourd'hui, je vous raconte l'heure H d'un des hommes politiques les plus doués de l'histoire de France, Joseph Fouché. Le mitrailleur de Lyon comptait profiter de son passage dans la capitale des Gaules pour se donner un appui politique national. Cependant, ses écarts répétés lui claquent des portes au nez et certains de ses amis vont même lui tourner le dos lors de son retour à Paris. C'est pour lui une traversée du désert qui débute. Elle ne va se terminer qu'avec l'arrivée au pouvoir d'un homme qui va le propulser au rang de figure politique la plus importante du pays. Tout semblait pourtant se dessiner de manière royale pour celui qui est persuadé d'avoir réussi sa mission. À son retour à Paris, Robespierre absent, il est nommé à la tête de son parti politique. Pour 8 jours. De retour, celui qui fait déjà la loi en France depuis plusieurs mois l'exclut. Et Fouché est persuadé que son nom vient d'être inscrit sur la liste des condamnés à la guillotine. Robespierre n'a pas vu d'un mauvais œil la violence de cette répression à Lyon. Simplement, la concurrence de son ancien allié ne lui plaît guère. Alors que la terreur impulsée par Robespierre lui-même reflue après l'exécution de ce dernier, Fouché n'hésite pas à faire porter toute la responsabilité des crimes sur le dos de ses 2 comparses présents à l'époque à Lyon. D'ailleurs, Robespierre doit sa chute de manière incontestable à cet homme qu'il vient de renvoyer de son parti politique, qui se bat avec vigueur pour sauver sa tête et donc sa vie. Il réussit son coup. Manigance des complots et des alliances, et finalement, le coup d'État de Thermidor met un point final à cette période si propice à l'utilisation de la guillotine sur la place de la Révolution. Mais cela ne sauve pas Fouché pour autant. Personne n'a oublié ses excès, ses crimes, et la Convention sait que sa capacité à manigancer est dangereuse. Il est attaqué à plusieurs reprises. manque à chaque fois d'avoir le cou tranché, s'en sort souvent de manière miraculeuse et termine le bec dans l'eau, sans engagement ni poste. Et si vous croyez l'homme abattu, eh bien vous vous trompez. Il décroche in extremis une mission à la frontière franco-espagnole, intégrant en parallèle la police secrète du directoire, le régime politique qui suit la chute de Robespierre. C'est dans cette activité secrète qu'il se révèle véritablement, prenant des initiatives et réussissant des coups que personne ne pouvait prévoir. Il reprend en importance, assez pour être nommé représentant de la France dans une partie de l'Italie actuelle. Mais, vous le savez comme moi, le naturel revient toujours au galop. L'enrichissement personnel qu'il tire de cette présence dans la botte lui coûte sa place et il est contraint de partir pour la Hollande où son poste lui permet de mettre en place des magouilles plus discrètes. Le réseau qu'il établit, remarquable machine dont il est le principal rouage, lui donne du crédit au niveau national et le régime du directoire des plus tremblotants lui confie le ministère de la police. Nous sommes alors en juillet 1799 et dans l'ombre. Un jeune général aux dents longues et aux bicornes affûtées s'apprête à prendre le pouvoir. Et comme toujours, Fouché, lui, a vu le coup venir. Pour réussir le coup qui va le propulser à terme empereur des Français et roi d'Italie, Bonaparte a besoin de solides appuis. Depuis quelques mois, Fouché, ministre, a tissé un réseau qui en fait une pièce inamovible du paysage. Alors que le coup d'État se prépare au mois de novembre, le régime en place demande au ministre de prendre des mesures contre le fougueux intrigant. Refus de Fouché, qui s'est déjà arrangé avec la nouvelle équipe pour renforcer son poste. Malin comme un singe, il ne s'implique pas assez pour être menacé, mais tout juste assez pour mériter une récompense. Une fois la machine lancée, il a la charge d'arrêter les directeurs, ceux-là même qui lui ont fait confiance en le nommant l'année précédente. Sans avoir pleinement confiance en lui, et on peut le comprendre, Bonaparte le maintient en poste. Lui, il élargit son réseau, coordonne les actions de la police, des services secrets, mais aussi de la gendarmerie, et tisse ainsi sa toile dans le pays sans discontinuer. Bientôt, il sera le véritable maître de ce qu'il se passe et ne se passe pas dans l'intérieur du royaume. Cette position de force, vous l'imaginez bien, ne va pas arranger le naturel ambigu de cet amoureux du cynisme et des coups montés, tant que ces derniers lui sont profitables. Au début du régime, en 1800, il a été jusqu'à enlever un sénateur. Il n'a pas hésité non plus à faire condamner deux innocents pour sauver sa peau. Mais pour que vous puissiez bien comprendre la psychologie du personnage, je dois d'abord vous raconter les faits. Nous sommes au matin de la bataille de Marengo, le 14 juin 1800. La situation pour Bonaparte semble désespérée et la deuxième campagne d'Italie risque de s'achever sur un désastre. Une défaite et sa position politique âprement gagnée va voler en éclats. En France, des vautours se sont discrètement organisés afin de le faire chuter et la défaite de Marengo serait un excellent prétexte. Mauvaise donne pour les conspirateurs, l'intervention presque divine d'un général durant la bataille sauve Bonaparte. Fouché, ayant eu connaissance de la situation difficile des troupes du pays avant Marengo, a cru bon de conspirer contre le pouvoir à son propre compte. Des hommes de ses services de police, mais aussi des membres du corps législatif, se sont réunis autour de lui afin de se partager le pouvoir en cas de changement. Parmi les comploteurs, Bernadotte, qui trouvera le moment opportun pour trahir, et Talleyrand, dont le nom représente à lui seul la notion de retournement de veste politique. Bonaparte, de retour à Paris, avisé par ses frères de la tentative de complot, somme Fouché de lui donner la liste des conjurés. Problème pour le ministre. Certains documents, au sein d'une correspondance avec le fameux sénateur, le condamnent lui-même. Pour s'en sortir, il fait donc enlever dans son château l'homme du Parlement, fait brûler les documents et se retrouve donc avec un prisonnier d'importance sur les bras. Bonaparte, soucieux du bon ordre intérieur, en est particulièrement révolté et fait libérer le malheureux. Mais l'affaire, elle, ne fait que commencer. Fouché se retrouve à devoir chercher des coupables s'il ne veut pas prendre de risques pour lui-même. Soudain, il se souvient d'un différend qu'il a eu il y a des années avec deux nobles politiquement royalistes. Splendide prétexte que voilà pour faire arrêter ses ennemis. Sans aucune autre preuve, bafouant sans vergogne leur innocence, les fait arrêter et juger. Le procès est truqué, la défense des deux hommes ne peut s'organiser comme la loi le stipule et bien entendu, ils sont condamnés à mort et exécutés en 1801. Vous voulez connaître la raison de la brouille entre Fouché et ces deux hommes, j'imagine ? Eh bien, tenez-vous bien. Dans une auberge d'Eure-et-Loire, les deux jeunes gens discutent lorsqu'un visiteur entre et commande un verre de vin. Soudain, sous prétexte de mettre à la fille du patron une cocarde sur la poitrine, il la saisit par la taille et l'embrasse de force. Les deux jeunes sautent sur l'individu, le rossent et le jettent dehors. L'imprudent agresseur s'appelle Joseph Fouché. Et des années plus tard, il se venge des deux jeunes gens courageux de s'être interposés. Grâce à toute cette histoire, vous avez maintenant une bonne idée du mauvais fond de cet homme aussi impitoyable que Cupide. La même année, Bonaparte est victime d'une tentative d'assassinat. Cet attentat est le fait de royalistes, et alors que le futur empereur est persuadé de la culpabilité des républicains jacobins, Fouché lui prouve par A plus B que ce sont bien les partisans du roi qui en sont les auteurs. La puissance et le réseau de Fouché sont à leur apogée quand 2 ans plus tard, Bonaparte tente de transformer son pouvoir en fonction à vie. Lui qui est ministre de la police tente de manœuvrer pour le faire renverser. L'échec est cuisant et la sanction retentissante. Le ministère de Fouché est tout simplement supprimé en septembre 1802, notamment grâce à l'intervention de celui que l'on nomme le diable boiteux, son ennemi de toujours, un certain Talleyrand. Néanmoins, afin de ne pas se faire un ennemi d'un personnage si dangereux, Napoléon le gratifie de plus d'1 million de francs de rente et du poste de sénateur d'Aix. Pour Fouché, cela a tout d'une retraite dorée. Il est alors âgé de 42 ans et la vie politique qu'il mène depuis des années l'a fatigué. Mais l'homme est un virtuose de son art et il maintient en vie ses réseaux pour pouvoir s'en servir le moment venu. Il participe à plusieurs arrestations alors même qu'il ne dispose plus d'aucun portefeuille de ministre, de celle de Pichegru à la très célèbre duc d'Enghien. C'est cette dernière affaire qui se termine par le meurtre d'un héritier de la couronne de France et qui donc embarrasse Napoléon dans son accession au titre d'empereur, qui lui redonne du crédit auprès du pouvoir central. Ainsi, quelques mois avant la cérémonie du sacre du 2 décembre 1804, il est de nouveau nommé ministre de la police. Pour Fouché, ce retour en grâce inattendu est le meilleur moyen d'étendre son emprise. Napoléon, lui, vient de faire revenir le loup dans la bergerie.
L'heure H. Jean-Louis Lahaye.
Aujourd'hui, je vous raconte l'heure H de Joseph Fouché, mitrailleur de Lyon et mythique ministre de la police de Napoléon. Alors qu'il est couronné empereur le 2 décembre 1804, Napoléon Ier a besoin d'un réseau d'espionnage des plus performants. Il n'a donc pas le choix. Il doit nommer de nouveau le vil Fouché à ce ministère. Il n'a pas confiance du tout en sa probité, mais malgré sa vigilance, il va pourtant se faire déborder régulièrement par les manœuvres de Fouché, bien souvent aidé par le non moins impitoyable Talleyrand. Grand maître de la surveillance et de la répression, la réputation de Joseph Fouché le précède. Son réseau est tentaculaire. Apparaît alors le surnom de pieuvre qui lui colle à la peau et qui lui est de nature plus flatteuse, du moins en apparence. Insidieusement, au détriment souvent de la morale qui lui fait tant défaut, ses indicateurs qui sont partout en France et dans l'Empire, à toutes les échelles sociales, lui font remonter des informations parfois tellement secrètes que même Napoléon n'en a pas eu connaissance. Pire encore, la propre femme de l'empereur, Joséphine, est rémunérée à plusieurs reprises par le ministre de la police pour des informations jugées secrètes. Vous imaginez, vous, un de vos collègues qui vient corrompre votre propre épouse ? De 1804 à 1810, c'est le bonheur pour Fouché, qui roule sur l'or, détourne impunément des sommes d'argent délirantes, s'enrichit, accroît ainsi son cercle d'informateurs et ainsi de suite. Le cercle vertueux de l'enrichissement personnel et de l'abus de pouvoir. Sa police moderne est un modèle du genre, habile et toute puissante. Chaque jour, il est en mesure d'apporter à Napoléon son lot d'informations cruciales comme les projets de grève, de conspiration ou de manifestation. Enfin, disons plutôt qu'il lui donne ce qu'il a bien envie de partager avec son patron. Ce qui peut servir ses intérêts personnels reste généralement sous le manteau. Établissons un aparté qui va nous permettre de mieux cerner le fonctionnement de cette police aussi modèle que pyramidale. Tout en haut et seul, Fouché. Sa méthode ensuite est celle de nommer des préfets de police. Ce sont eux qui sont chargés d'établir des listes en tout genre. Infractions, crimes, noms des mendiants, des soldats déserteurs qui se cachent au fin fond des auberges et la liste est longue. Fouché leur ordonne de rendre les passeports obligatoires, ce qui permet de suivre les déplacements des individus, mais aussi de dresser leurs signalements. L'homme manie les peurs avec brio, attise les susceptibilités et les vieilles rancœurs, use de tous les stratagèmes pour parvenir à ses fins. La presse du pays devient un service de communication, un formidable outil de renseignement aussi. Fouché va directement payer les rédacteurs en chef. Vous imaginez la colossale somme d'argent à débourser pour rémunérer tous ces services. Rapidement, les fonds publics ne suffisent plus. Et il est hors de question pour le ministre de mettre la main à la poche. Sa solution ? Il va imposer des taxes sur les maisons de jeu et sur le commerce de la prostitution. Officiellement, cette taxe sur les métiers de l'amour va directement servir à la bonne santé des femmes de joie. Bien entendu, il n'en est rien. D'une manière plus personnelle, le glacial personnage consolide son pouvoir et son enrichissement. Napoléon baisse un peu sa garde. Le nomme comte d'Empire et lui confie même les clés du royaume pendant qu'il part combattre les Autrichiens en 1809. Il est fait nommer d'Otrante pour sa remarquable gestion et commence tout doucement à apprécier d'être sous la lumière alors que, jusqu'à présent, son royaume était celui des ombres. Cela le pousse à manœuvrer contre son souverain dès l'année 1810. Pourtant, le régime est à son apogée. La nouvelle impératrice est prête à donner un héritier à Napoléon et l'Europe est à ses pieds. C'est aussi la période à laquelle il se rapproche de Talleyrand au cours d'un déjeuner. Ayant toujours un coup d'avance et malgré la puissance de la France à ce moment, le redoutable Fouché préfère couvrir ses arrières. Il tente de négocier, sans l'aval de Napoléon, des propositions de paix à l'Angleterre par l'intermédiaire d'un certain Arthur Wellesley, ministre de son État et futur duc de Wellington. Napoléon l'apprend. La sentence, elle, est bien entendu irrévocable. L'empereur provoque son départ. 2 ans d'une nouvelle traversée du désert enjolivée par la fortune amassée et l'influence de ses intermédiaires qui continuent d'alimenter ses petits dossiers qui contiennent toutes les informations les plus compromettantes possibles sur ses cibles. La quantité de ces documents est considérable. La campagne de Russie, coûteuse en argent et en hommes, sonne le glas des ambitions territoriales de Napoléon. Pour se relever d'un tel désastre, il ne va pas avoir le choix que de rappeler encore une fois son ancien ministre. Cependant, il comprend cette fois qu'il ne peut plus le remettre à la même place et décide de l'envoyer dans les provinces illyriennes en tant que gouverneur. Ce poste n'est pas une sinécure, ni une retraite au soleil. C'est l'un des postes les plus piégeux du régime, tant la situation y est délicate. Mais cela ne va pas effrayer l'ancien homme fort d'un régime en déclin. Il révèle dans ce nouvel emploi des qualités insoupçonnées. Décision mesurée, fin généralisée du servage, il s'intéresse au tracas de la population et organise fêtes et réceptions avec les notables locaux. Alors que les Autrichiens l'envahissent, il ne s'enfuit qu'au dernier moment afin de montrer l'exemple à ses sujets. En somme, un gouverneur modèle, bien loin des exactions du Fouché révolutionnaire. Mais rappelez-vous, le naturel revient au galop. Et une nouvelle trahison envers Napoléon se profile. En 1814, alors que Murat signe une paix séparée avec l'Autriche, Fouché prend le côté des parias partisans de la royauté et accueille en personne le futur Charles X à son arrivée à Paris. Problème. Sa réputation le précède, et son zèle lors des années noires de la Révolution aussi, notamment sa répression des royalistes. Autant vous dire que le roi, malgré toutes les courbettes qu'il peut faire, le regarde en chien de faïence. Il refuse alors toutes les offres d'emploi qui lui sont transmises, craignant un piège. De fait, la couronne cherche à le faire arrêter. On le soupçonne notamment de fricoter avec les républicains pour tenter un improbable retour. Tout semble fini lors du départ de Napoléon pour l'île d'Elbe. Mais des farces que seule l'histoire peut orchestrer vont lui permettre un ultime retour sur le devant de la scène. En effet, de retour au pouvoir après une évasion des plus folles, Napoléon cherche à placer au poste clé des hommes plus compétents que de confiance. Le temps presse, les ennemis sont légions et les possibilités d'action sont réduites. Pour la police, un seul profil se détache, celui de Fouché. Napoléon est persuadé que son plan d'attaque vers la Belgique va lui permettre de renverser la situation à son avantage. Mais son ministre, lui, comme à son habitude, prépare déjà la transition alors que l'empereur a les yeux rivés vers les combats. Prévoyant l'ultime défaite de l'aigle, il manœuvre et devient la tête principale du gouvernement. À son retour après le désastre de Waterloo, alors que Napoléon pense trouver en lui un allié, Fouché va le trahir une ultime fois sans ménagement. Il pousse Napoléon à l'abdication, prend la tête du gouvernement provisoire et négocie avec les puissances alliées, dont l'Angleterre. Derrière lui, l'ombre de Talleyrand n'est jamais bien loin. Il orchestre de toutes pièces le retour du roi Louis XVIII, et ce, alors que d'autres options sont sur la table, que ce soit une régence de Napoléon pour son fils ou un retour de la République. Enfin reconnaissant envers lui, du moins en façade, le nouveau roi le nomme ministre, lui, Fouché, qui a voté la mort de son frère Louis XVI en 1793. Cependant, d'anciens nobles émigrés de retour au pays lancent contre lui une cabale qui va se révéler payante et va pousser la couronne à l'envoyer en tant qu'ambassadeur à Dresde. Il perd alors son poste de ministre. Sa position n'est pas si inconfortable. Éloigné, certes, mais tout à fait vivable. Il est encore au cœur des actions du gouvernement grâce à ses oreilles, qui traînent encore, encore et toujours, partout. Oui, mais voilà. L'histoire ne tarde pas à se charger de lui. Le 12 janvier 1816, le roi fait voter une loi qui pousse une liste de personnages influents de la Révolution et de l'Empire à l'exil. Et vous l'imaginez, eh bien, il est en tête de liste. Pas Talleyrand, qui, lui, a su tirer une nouvelle fois son épingle du jeu. Mais pour Fouché, c'est la mort politique. Frappé du mot de régicide, celui d'assassin des rois, il meurt à Trieste, en territoire autrichien en 1820. Le matin de sa mort, assisté du plus jeune frère de Napoléon, Jérôme Bonaparte, il emporte avec lui tous ses secrets. Pendant près de 5 heures, le jeune frère de l'aigle va brûler tous les papiers et les cassettes de celui qui a détenu sans doute le plus de secrets sur ses contemporains. Une partie de l'histoire du directoire, du consulat et du Premier Empire part ainsi avec lui. Jérôme Bonaparte ne dira jamais un mot du contenu de ses papiers, fidèle au moins des fidèles de son frère. Curieux pied de nez, vous ne trouvez pas? Je vous propose de nous quitter aujourd'hui avec la célèbre maxime de Chateaubriand qui croise Fouché et Talleyrand chez Louis XVIII, alors en exil à Gand, avant la bataille de Waterloo. Tout à coup, une porte s'ouvre. Entre silencieusement le vice, appuyé sur le bras du crime. Monsieur de Talleyrand, marchant soutenu par Monsieur Fouché. La vision infernale passe lentement devant moi, pénètre dans le cabinet du roi et disparaît. Tel était cet homme, le vice au service d'intérêts personnels et financiers. Voilà donc pour ce récit que j'ai eu l'honneur de vous partager aujourd'hui avec la plume de Valjean.
L'heure H. Jean-Louis Lahaye.